Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui doit faire quelque chose ici-bas? Voilà ce que j'aurais envie de répondre à ceux qui m'interrogent sur mes activités. Non, c'est pas de moi, je pense pas ça. C'est un philosophe athée et ô combien pessimiste qui s'appelle Émile Cioran, en roumain, qui pensait ça. Et en fait, la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est « Et vous, si on vous interroge sur vos activités, qu'est-ce que vous répondez ? » Est-ce que vous répondez comme Cioran, laisse-moi tranquille, sur mon visage, c'est pas marqué « le grand sauveur du monde » ? Est-ce que vous répondez « bon, la routine quoi, métro, boulot, dodo, il n'y a pas de métro aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous vous sentez appelé à agir autour de vous, dans votre environnement ? Est-ce que vous vous sentez appelé à faire des grandes choses ? En général, en tout cas c'est pour moi, j'étais beaucoup encouragé cette semaine en préparant ce message, mais bien souvent la réponse de mon côté elle est négative. Moi je peux rien faire, ça se voit pas, enfin mon visage n'exprime rien d'héroïque. Je ressemble pas à ces stars de la télévision ou à ces grands héros qui peuplent nos séries télé, etc. J'ai pas l'âme d'un héros, je suis un type ordinaire. Et mon encouragement ce matin, ce que je veux vous montrer avec l'histoire de David, c'est qu'on a tout faux si on pense comme ça. Alors, avant d'en parler et de nous pencher sur ce texte, je vais appeler Mathilde pour que, grâce à ses talents d'oratrice et de femme de théâtre, elle nous lise ce texte qui est ô combien magnifique.
Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azeka, à Éphès d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ela et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles, Saul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Éphratien de Bethléem, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saul, cet homme était vieux et d'un âge avancé. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Voici le nom de ces trois fils partis pour la guerre. Éliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shammah, le troisième. David était le plus jeune, et les trois aînés avaient suivi Saul. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saul pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Ela. Ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous avancé cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin ? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta la même chose en précisant, « Voilà comment on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et ta méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saul, qui le fit venir. David dit à Saul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. » Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Saul disait à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saul fit enfiler sa tenue à David. Il passa sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saul, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de verger dans sa poche. Enfin, sa fronde en main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le fils dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit alors au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin en front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et le poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem. Il le déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton ami vivait en Troie, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, » avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saul. David tenait à la main la tête du Philistin. Saul lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur, Isaïe le bethléémite.
Merci Mathilde. Vous avez de la chance que ce soit pas moi qui ai lu ce texte, ça aurait été beaucoup plus ennuyeux. En fait non, je pense pas, parce que je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais jeune, j'adorais tellement lire ce genre de passage dans la Bible. Il y a des soldats, il y a des combats, etc. C'est incroyable. Et je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais décidé de prendre ce passage, mais je savais pas encore ce que j'allais dire vraiment dessus. Et j'ai décidé de le lire à ma petite cousine, qui n'a pas du tout un environnement chrétien, pour voir comment est-ce qu'elle réagirait. Elle a 6 ans, 6 ans et demi, et c'était vraiment une bonne expérience. Elle a beaucoup apprécié. Elle était là, les yeux grands ouverts, attendant le dénouement avec impatience. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit problème quand même. Le petit problème, c'était tous ces noms, je vous les cite. Philistin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Soko, Azeka, Saül, Éphèse d'Amim. Bon. Est-ce que vous savez où c'est, vous, tout ça? En tout cas, c'était pas mon cas. Maintenant, je le sais, mais avant, je savais pas trop. Et je me suis dit, enfin, quand je lis la Bible souvent, je tombe sur ce genre de passage et je comprends rien, je sais pas vraiment où sont les lieux, je sais pas vraiment qui sont les personnages. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est présent? Pourquoi donc? Une petite parenthèse, j'ai compris ça assez récemment en fait, quand je suis arrivé à Louvain. Je cherchais ma future maison et j'étais complètement perdu à Louvain-la-Neuve, comme ça, lâché dans la nature. Et puis je suis tombé sur un monsieur qui avait l'air gentil, donc je l'ai arrêté et je lui ai demandé s'il pouvait m'indiquer mon chemin. Et il m'a dit où est-ce que tu veux aller? Je lui ai dit Place Magritte. Et il m'a dit ah, Place Magritte, oui, je vois où c'est à côté du Cézec. Mais encore. Et là, il m'a regardé avec un regard surpris. Quoi, tu connais pas le Cézec? Tous les étudiants de Louvain-la-Neuve connaissent le Cézec, je veux dire. Et j'étais pas encore étudiant à Louvain-la-Neuve. Et en fait, c'est très simple. C'est dans nos discussions avec les gens, on veut pas leur donner des informations inutiles en général. Donc pour lui, il jugeait que s'il m'expliquait tout grosso modo qu'est-ce qu'était le Cézec, ça allait m'ennuyer et j'avais pas le temps d'écouter ce que je savais déjà. Donc voilà un peu pourquoi dans la Bible il y a des passages comme ça qui nous paraissent obscurs. Parce que on a des informations qui sont manquantes de notre culture, qui étaient évidentes pour la culture de l'époque. Alors rapidement, je vais vous... comment ça marche ce truc? Ok. Très bien, donc là vous avez une petite carte avec la zone du combat entre David et Goliath. Donc vous voyez Jérusalem, la ville principale dont on parle. Et voilà Azeka. Donc vous voyez, c'est pas très loin de Jérusalem. On a aussi Bethléem qui est mentionné. Et donc si vous regardez un petit peu la carte, Azeka est environ à 30 km au sud-ouest de Jérusalem. Et Soko, là où les Philistins se rassemblent, c'est une ville du bas pays de Juda, c'est-à-dire un territoire entre les montagnes et les plaines côtières, qui est situé environ à 25 km au sud-ouest de Jérusalem. Comme les Israélites ont toujours habité les montagnes et les Philistins à la plaine côtière, le bas pays entre les deux a toujours été l'objet de disputes. Quant à Éphèse d'Amim, là où les Philistins campent, ce serait entre Soko et Azeka. Mais la localisation du site est incertaine. Et puis, en ce qui concerne le lieu de la bataille, la vallée du Térébinthe, c'est environ à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Bethléem. Et je me suis dit que j'allais vous montrer des photos quand même, parce que une image vaut mieux que de grands discours. Donc voilà quelques petites photos de ce cadre qui est assez incroyable en réalité. Vas-y, passe la suivante pour que tu vois aussi encore. Voilà encore une vue de l'autre côté. Voilà la vallée des Térébinthes. Térébinthe, c'est un chêne. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, si vous êtes habitué à utiliser ce terme. Un environnement magnifique, incroyable. Enfin, je sais pas si ça vous arrive des fois, vous êtes dans la nature comme ça et vous regardez autour de vous et c'est juste magnifique. Mais il m'est arrivé une chose assez surprenante en fait, quand je suis parti en Pologne, salut Patou, quand je suis parti en Pologne, visiter Auschwitz-Birkenau, les camps de concentration et d'extermination nazie. J'étais choqué, pas tant par ce que je voyais, parce que c'était quand même choquant, mais par le contraste assez incroyable, presque absurde, entre la beauté des lieux, la Pologne c'est un pays magnifique, je vous conseille d'y aller, entre la beauté des lieux à Auschwitz et l'horreur qui avait pu avoir lieu là-bas. Ça fait penser aussi à un film de Terrence Malick qui s'appelle La Ligne Rouge, où c'est un combat extrêmement violent, d'une violence extrême, qui se déroule dans une île japonaise. Salut Miwa. Dans une ville japonaise, il n'y a pas de jaloux comme ça. Dans une ville japonaise, dans une petite île japonaise qui est magnifique, avec une végétation luxuriante. Et ouais, c'est ce côté absurde, l'absurdité d'une beauté naturelle qui est souillée par le mal et par l'absurde de la violence humaine. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Cette magnifique vallée qui appartient aux Israélites, elle est menacée, sa sécurité est menacée, ses habitants sont menacés par un peuple, les Philistins. On ne sait pas grand-chose sur ce peuple en réalité. Sans doute originaire de la Crète, ils sont venus s'établir sur le littoral cananéen lors des grandes migrations. Philistins, ça veut dire « peuple de la mer ». Donc c'était vraiment un peuple qui avait pour caractéristique d'envahir assez régulièrement les territoires qui étaient proches d'eux. Et là, en l'occurrence, ils ont décidé d'envahir le territoire hébreu. Et comment est-ce que réagissent les Hébreux? Est-ce qu'ils tremblent de peur? Ah non, clairement pas.
Ils se rassemblent
pour affronter les Philistins. Ils se rassemblent pour affronter les Philistins. Les Hébreux et leur chef, leur roi Saül, le grand Saül, l'homme de guerre Saül, sont là, prêts à défendre leur territoire. Ils ont la bonne réaction, je pense. Hein. Je pense que c'est la réaction qu'on a en général, face à une situation absurde, face à l'inadmissible, face au mal. Le mal, j'aime bien la définition d'Henri Blocher, un théologien évangélique. Le mal, c'est ce qui est et qui ne devrait pas être. Et là, les Israélites l'ont compris. Les Philistins envahissent, c'est ce qui est, ils ne devraient pas faire ça, c'est ce qui ne devrait pas être. Tu peux changer la diapositive. Une situation inadmissible, donc. Et c'est souvent ce qu'on fait en tant qu'individu, en tant que collectivité, face au problème. On se dresse devant, on se range en ordre de bataille pour affronter l'inadmissible. Mais le problème, c'est que là, il y a un souci, et il est de taille, sans mauvais jeu de mots. Goliath. C'est pas Goliath, ça c'est un petit philistin tout gentil. Tu peux passer? Reste comme ça. Goliath. Comment est-ce qu'on le décrit? De Gath, c'est une ville philistine. Jusque-là, tout est normal. 6 coudées et 1 empan de taille. Autrement dit, près de 3 mètres. Ça vous paraît peut-être assez grand comme ça. Moi, ça me paraît assez grand. Mais c'est difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer à quoi ça ressemble, un Goliath. Alors je me suis dit, qui est-ce que je connais qui ressemblerait le plus près possible d'un Goliath aujourd'hui? Et j'ai trouvé un bonhomme, Nicolas Valoev. C'est un Russe. Il n'a pas l'air commode, hein. Et pour cause, 2m16. Ok, ça se voit, hein. 150 kilos, il chose du 52, c'est un monstre. Et c'est pas juste un bonhomme comme ça, là en l'occurrence il est en Crimée, je sais pas si vous avez vu, peut-être que vous l'avez vu aux informations, il est en Crimée, c'est un Russe qui est très, très patriote, mais c'est avant tout un boxeur. Donc là vous le voyez, il faut vous imaginer qu'en face de lui le gars, il fait au moins 1m90, hein. Donc ça, vous pouvez imaginer la chose. Encore une autre photo si vous voulez, voilà, face à son entraîneur. Voilà, c'était le champion du monde des poids lourds, hein, en boxe jusqu'en 2009. Alors maintenant, vous prenez cet individu, vous lui rajoutez 80 cm, une centaine de kilos, une armure imposante et une lance de la taille d'un ensouple de tisserand, c'est-à-dire un beau truc quand même, et vous avez Goliath. Et il rigole pas, Goliath. Hein. Là, il vient pas juste dire bonjour à l'armée israélite, il leur lance un défi.
Bon, je sais, c'est facile pour nous de
juger comme ça. Parce qu'on connaît la fin de l'histoire.
Oh, les Israélites, ils n'avaient pas confiance en Dieu et tout.
Mais je vais vous donner un exemple de défi insurmontable. Quand je suis arrivé à Louvain, j'allais dans une église qui n'est pas celle-ci. Et vraiment, c'est une église vraiment cool. J'avais des moments de louange extraordinaires et puis les gens étaient vraiment accueillants. Et un matin, je parle avec un des anciens. Ancien au sens âgé du terme. Et je parle du GBU, groupe biblique universitaire, avec lui. Et dans ma peut-être candide jeunesse, j'étais là tout enthousiasmé
oh oui, je pense que avec Christopher, on va réussir à faire des grandes choses, parler de Dieu, etc. Moi, je table au moins sur une quinzaine de jeunes qui viendront régulièrement à la fin de l'année, etc. Donc, j'étais vraiment, vraiment, vraiment enthousiaste. Et là, il m'a répondu du tac au tac, quelque chose qui a résonné comme « Non, mais rêve pas, hein. » Il a dû se dire « Ah, si jeunesse savait. » Je peux vous dire que ça m'a un peu énervé quand même sur le coup. Je m'attendais pas trop à ce type d'encouragement, voyez-vous. Il a vite compris ce qu'il avait dit, il a essayé de rectifier le tir, mais le mal était fait. Ou plutôt, la réalité telle qu'elle est était dite. L'écrasante réalité du monde. Cette ville n'a rien à faire du christianisme. Encore moins de la Bible, dont l'écrasante majorité des étudiants la considèrent comme un bouquin poussiéreux et dépassé. Dans une telle situation, comment motiver 15 jeunes à venir régulièrement? Il avait raison, cet homme. Cela paraissait objectivement impossible. Abandonne tout espoir, toi qui pénètre à Louvain la Neuve. Voilà ce qui se passe, hein, un défi insurmontable et une angoisse pétrifiante. Vous connaissez le mythe de la Gorgone, de la mythologie grecque? C'était une femme ou un semi-monstre comme ça, tellement laid que quiconque regardait son visage était pétrifié sur le champ. On les représentait comme des jeunes femmes, souvent avec des ailes et des grandes dents, leur chevelure constituée de serpents. C'est Persée pour la petite histoire qui va tuer la Gorgone. Mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Souvent, en réalité, les défis insurmontables suscitent la peur, l'angoisse et nous pétrifient. Moi, j'ai une amie, par exemple, que j'adore. Elle a un petit problème. En arrière, s'il te plaît. Elle a un petit problème, c'est qu'elle a la phobie des poissons. Ça peut paraître abusant comme ça, la phobie des poissons, mais c'est difficile à vivre. Hein. Je suis allé à la mer avec elle assez récemment et elle ne pouvait pas se baigner. Et puis, quand par hasard elle tombe sur une photo de poisson quand elle lit un journal, son cœur fait un bond. Ça peut paraître anodin comme ça, hein, mais ça bloque la vie, ça la pétrifie la vie, ça asphyxie la vie. On ne peut plus rien faire après. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Hein. Les Israélites, ils sont pétrifiés de peur. Et c'est ça dans nos vies aussi. Je ne sais pas si, à l'échelle collective, par exemple, face à un défi insurmontable, on bug, on s'arrête, on ne fait plus rien. On est en mode pause. À l'échelle individuelle aussi. Regardons nos vies, un péché qui revient sans cesse, et puis on l'abandonne. Et pour ceux d'entre vous qui sont peut-être pas chrétiens, j'en vois un obstacle aussi, la mort. La mort, elle pétrifie. Hein. Quand j'étais pas chrétien encore, ça me terrifiait, la mort. Je pense à ce livre de Philippe Nemo qui s'appelle Job ou l'excès du mal, où il met en lumière à quel point l'angoisse de la mort cesse en nous tout projet, toute action. On passe d'agent à patient de nos vies. J'aime bien cette distinction, hein. Elle est pas de moi, elle est d'un linguiste qui s'appelle Brémond. Agent à patient. Regardez ce qui se passe. Les Israélites, au début de l'action, ils sont agents. Les Philistins arrivent, on va se battre. Après Goliath, ils sont patients. Pas patients, la vertu, hein. Mais patient, on est affecté par ce qui se passe et on ne fait plus rien. Et la situation paraît ciselée, hein, paraît close. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Mais l'histoire ne se termine pas là, heureusement. Il y a un petit mot qui vient tout changer. Verset 12, or. Conjonction de coordination, hein. Pas le métal. Or. David.
Et là, on décrit David.
C'est amusant comment il est décrit. Hein. On commence par dire qu'il vient d'une tribu, Benjamin, qui est la plus petite de toutes. Et puis on dit que ses trois frères, qui sont probablement des valeureux guerriers, sont allés suivre Saül, et que lui, c'est le plus jeune. Et puis on dit aussi ce qu'il fait. C'est un berger. Ça va pas voler très haut, hein, si c'est lui qui doit sauver Israël. D'autant plus que là, la situation est quand même assez difficile. Je ne sais pas si vous pouvez lire avec moi. C'est... Je retrouve le passage. C'est le moment où ils disent que ça fait 40 jours que Goliath se présente matin et soir pour défier Israël. Mais vous imaginez 40 jours, c'est un peu comme dans les westerns, hein, ils étaient face à face comme ça, et puis ils se regardaient dans le blanc des yeux, qui craquerait le premier. Et il y a Goliath, chaque matin et chaque soir, qui vient leur dire, « Bah alors, personne ne peut se battre avec moi ?» Oh là là, mais vous imaginez dans l'état dans lequel devaient être les Israélites à ce moment-là. La situation empirait jour après jour, seconde après seconde. L'angoisse probablement se répandait dans chaque parcelle de leur âme. Et Saül, il était désespéré. À tel point, Saül est désespéré qu'il propose des petits lots comme ça. Enfin, il se dit, comment je vais réussir à motiver quelqu'un à oser risquer sa vie. Alors il propose sa fille en mariage. Il propose aussi des grandes richesses. Ça sert à rien. Je sais pas si sa fille était pas très belle ou je sais pas, mais ça sert à rien. Non, je pense pas quand même. Et là, on a un jeune garçon, David. Et son père lui dit, David, j'ai une mission pour toi. Tu vas terrasser un géant. Non, il dit pas ça à son père. Il dit, David, j'ai une mission pour toi. Tu vas amener la bouffe à tes frères. Ouah, super. Génial, la mission. Moi, à la place de David, j'aurais certainement réagi en disant quelque chose comme « C'est bon, papa, laisse-moi tranquille, on va un serviteur. Moi, je suis tranquille dans ma prairie, là, à jouer de la harpe. T'es pas me saouler, là. » Mais non. David, il est fidèle dans les petites choses. Il prend son courage à deux mains. Hop, il se lève tôt le matin. Contrairement à certains, moi en particulier. Et il va faire ce que son père lui demande de faire. Et je pense pas que ce matin-là, David s'attendait à écraser un géant. Il a dû prier, comme on peut le lire dans les psaumes. C'était un homme de prière, David. Et des belles prières, d'ailleurs. Je sais pas si vous lisez assez régulièrement les psaumes, mais c'est des perles. C'est des richesses. Il y a des pépites dans les psaumes, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il disait le matin, je pense? Je pense que David, quand il parlait à Dieu, il le remerciait pour ses bienfaits. Il lui demandait pardon pour ses fautes. Et puis surtout, il lui demandait d'être là avec lui, jour après jour. Et ce jour-là aussi, comme d'habitude. Voilà David qui arrive donc sur le champ de bataille. Et tu peux passer si tu veux. Et donc il se précipite vers ses frères pour prendre de leurs nouvelles. Il est vraiment zélé. Hein. Et il tombe sur Goliath. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, il s'enfuit pas. Hein. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est que David, contrairement aux Israélites, il a un autre regard sur la situation. Qu'est-ce qu'il dit sur Goliath? Qui est donc cet incirconcis? Waouh, je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai eu une petite sueur froide. Parce que bon, je suis pas juif et je suis pas circoncis, mais je me suis dit mince, peut-être qu'il est raciste, je sais pas, ça m'a fait peur. Et puis j'ai réfléchi et puis je me suis dit que c'était pas ça qu'il voulait dire. Bonne nouvelle. Ça signifie quoi la circoncision? La circoncision dans l'Ancien Testament, c'est la marque de l'alliance que Dieu le Père fait avec le peuple d'Israël. Et c'est quoi une alliance? Je sais pas si vous êtes allié avec quelqu'un. En tout cas, moi quand j'étais gamin, je me souviens à l'école, j'étais allié avec les deux caïds de la cour de récréation et je vous assure que personne ne voulait m'embêter, hein, parce que même si j'étais pas très musclé, j'étais un peu freluquet, ils savaient à qui j'étais allié. Et c'est exactement ça que David veut souligner. Cet incirconcis n'est pas allié à l'Éternel. Pourquoi donc en avoir peur? Il a un autre regard sur la situation. Je vais prendre un exemple de ce regard qui n'est justement pas celui qu'on doit avoir dans le Nouveau Testament. Jésus va se promener comme ça et puis il va à la piscine de Bethesda. Et puis là, il tombe sur un paralytique. Et voilà ce qu'il lui dit, grosso modo. Dis-moi, tu veux être guéri? Qu'est-ce que répond le paralytique? Ça fait X années que je suis là et personne ne veut m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu. Je suis bloqué ici, je peux rien faire, ça fait plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'il répond à la question, le paralytique? Non? Il ne répond pas. Mais sa réponse, elle révèle simplement un regard qu'il porte sur la situation. Et je ne vais pas lui jeter la pierre, entendez-moi bien. Mais punaise, imaginez-vous une seconde, quoi. Vous voulez monter un restaurant, vous avez tout sauf l'argent. Et pendant des années, il n'y a personne qui vous prête un copec. Et puis d'un coup, quelqu'un sonne à votre porte, c'est un grand millionnaire américain, je ne sais pas, par exemple Bill Gates, puis il vient, ouais, salut et tout, est-ce que tu veux de l'argent pour ton projet? Et que vous lui répondiez, ça fait 20 ans que personne ne veut me donner de l'argent. C'est exactement ça dont je vous parle. Je pense qu'on est prompt à voir le mauvais dans la situation, à se complaire dans notre sort, à dire, oh, ma vie, elle est horrible. Et c'est vrai que souvent, la vie, elle n'est pas facile. J'ai tel problème, et de toute façon, c'est sans espoir. Et c'est pas ce que fait David. David, il a un autre regard.
Tu peux passer.
Donc, il se renseigne. Qui c'est ce gars? Quelle est la situation? Et là, il tombe sur Eliab, son frère aîné. Et il n'est pas content, Eliab.
En même temps, moi, je le comprends, Eliab.
À l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Il faut vous rappeler ça. Hein. Et donc, les gens, ils s'amusaient comme ils pouvaient. Hein. Donc, dès qu'il y avait une exécution, par exemple, ils y allaient. En France, par exemple, le moment où les malfrats étaient écartelés ou guillotinés, bah, le peuple venait pour admirer la scène. D'ailleurs, beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est intéressant, ça. Oui, les hommes apprécient la violence. Et je pense que c'est un peu ce que reproche Eliab à David, à ce moment-là. Punaise, David, arrête de faire la commère, quoi. T'es venu ici pour regarder la situation. L'image que je vous ai prise, là, vous pouvez voir, c'est tiré d'un film qui s'appelle Requiem for a Dream, de Aronofsky. Et c'est vraiment ça que j'imagine, quoi. Ces petites commères, vous savez, assises sur un banc, oh, la situation est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est horrible, elle est horrible. Vous savez, c'est le genre de personnes, vous reconnaissez tous, je vais vous dire quelque chose, vous en faites tous partie, et moi aussi. Face à une situation, on est là. Oh, c'est inadmissible. Oh, oh l'évangile n'est pas annoncé à Louvain la Neuve, c'est inadmissible. Oh, oh, et puis personne vient à telle réunion. Oh, c'est inadmissible. Oh, oh. Et puis dans ma vie, telle chose se passe, c'est inadmissible. Mais on fait rien. On se contente de regarder la situation passer. On est patient, on n'est pas agent. Et Eliab, il croit vraiment que David fait la commère. Et donc il n'est pas content. Regardez ce qu'il lui dit. Je connais ton cœur tortueux. Pourquoi es-tu descendu? C'est pour voir la bataille, hein? Mes amis, si un jour, avec un autre regard, vous voulez changer les choses, sachez que les premiers qui se mettront devant vous pour vous barrer le passage, ce sera vos proches. Je parle avec ma petite expérience. Et c'est horrible parce que c'est ceux envers lesquels on a le plus de considération et qu'on écoute le plus. Je connais ton cœur, Cyril. Je sais que si tu fais ça, c'est pour ta propre gloire. Ou alors, Cyril, je te connais, tu me connais et je sais que tu n'as pas les compétences pour ça. La situation, elle est trop compliquée. Et puis réfléchis, Cyril, réfléchis. Une seule seconde. Si personne n'a réussi à la résoudre avant toi, c'est que c'est pas résolvable. L'esprit de découragement, mes amis. C'est ça qu'il faut. C'est ce à quoi il faut être prêt à faire face quand on veut changer les choses. L'esprit de découragement. Et il n'y a pas que Eliab qui s'y met, il y a Saül aussi. Saül. Le grand Saül. Le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit à David? Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, David. Car tu es un jeune garçon. Et lui, il est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse. Mais mes amis, Saül n'a rien compris. Parce que le problème, c'est pas la force de Goliath, ou sa taille, ou son poids. David est équipé pour la situation. Voyez ce qu'il lui répond. Je suis un berger, ah super le CV, je suis un berger, et quand il y a une brebis qui est arrachée par un ours ou par un lion, et ben je lui cours après et je le tue. D'accord? Et il précise, et ça c'est vraiment important, c'est vraiment le cœur du message là. Il précise, l'Éternel me délivre de sa main, ou de sa patte. Mes amis, pas besoin d'avoir fait HEC ou l'ULB ou l'UCL ou l'IBG ou que sais-je pour être utile à Dieu. Et vous n'avez pas le droit de vous cacher derrière un « Oh, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop vieux » ou je sais pas quoi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que la chose qui est vraiment qualifiante quand on veut agir pour Christ, quand on veut agir pour Dieu, c'est la foi et c'est la confiance qu'on met dans l'Éternel. Et David, il a compris ça. Regardez Moïse. Dieu, je sais pas parler, n'envoie pas moi. Jérémie. Dieu, je suis un jeune garçon, n'envoie pas moi. Et qu'est-ce qui répond à chaque fois Dieu ? C'est moi qui délie les langues, c'est moi qui ouvre la bouche. Fais-moi confiance, quoi. J'ai entendu « Merci Seigneur, parce que la jeunesse, elle booste l'Église. » Et mes amis, la jeunesse, ça s'entretient, hein, vous savez. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, d'accord, vous pouvez, rassurez-vous. Là, je m'adresse aux plus anciens d'entre vous. Rassurez-vous. À quel âge Abraham a-t-il commencé son périple ? Vous pensez qu'il avait commencé son périple à 20 ans ? Et Noé, et Élie, et Salomon, et Moïse, vous croyez qu'ils ont pris leur retraite ? Qu'ils sont arrêtés à 50 ans ? Non, mesdames et messieurs, la retraite, ça n'existe pas quand on est chrétien. Vous aurez toute l'éternité pour vous reposer. Quand j'étais petit, je me souviens, nos professeurs, ils sifflaient la fin de la récréation. Et parfois, je croyais entendre le son du sifflet. Alors, j'allais me ranger sagement devant la classe, et puis je perdais bêtement des précieuses minutes de récréation. Ne faites pas la même erreur que moi, vous, la vieillesse. Votre heure n'a pas encore sonné. Vous avez encore beaucoup de choses à apporter, une responsabilité immense, probablement plus immense que celle des jeunes en réalité, au sein de l'Église, à l'extérieur de l'Église. La jeunesse n'a rien à voir avec l'âge biologique. C'est une histoire de foi. C'est la foi d'un enfant vis-à-vis de son père. C'est ce dont parle Jésus, hein, quand il dit « Quiconque n'est pas comme cet enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. » C'est une confiance aveugle, presque instinctive. Dieu ne cherche pas des experts en communication. Il ne cherche pas des intellos, des apologètes. Il ne cherche pas des dirigeants de talent ou des coachs. Il veut avant tout des hommes qui, comme l'enfant lors de la multiplication des pains, soient prêts à donner ce qu'ils ont, tout simplement, en toute confiance. Cette foi de David, cette assurance de la délivrance, elle finit par convaincre Saül. Qui, de toute façon, il n'a pas trop le choix, Saül. Hein. Il est au pied du mur, lui aussi. Et voilà le problème de Saül. Il regarde ce qui frappe les yeux, encore et toujours. Alors il se dit, oh le pauvre, et bon, je vais lui laisser partir affronter le Philistin, mais je vais quand même lui filer mon armure. Enfin, au moins pour qu'il ait une petite espérance de survie, quoi. On sait jamais. Et ça part d'une bonne intention. Hein. Vous savez, Saül n'est pas acheté aux oubliettes. C'était un homme de guerre talentueux, un homme politique fin, même s'il a fait des choses inadmissibles. Mais encore une fois, il n'a rien compris. Ce ne sera pas un combat entre Hector et Achille, avec des étincelles qui s'échappent des lames. Non, David y vient tel qu'il est. S'il avait été soldat, il serait venu en soldat. S'il avait été poissonnier, peut-être qu'il aurait fait des arêtes sur les gens, je ne sais rien, mais... Son armure est intérieure. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et vous ? Est-ce que vous êtes capable de voir dans votre frère, dans votre sœur, au-delà de ce qui frappe les yeux ?
Oh. Ouais, il est intelligent lui, mais il est jeune quand même. Ouais. Cette personne-là, elle est sage, mais oh, elle est un peu vieille quand même, un peu old school.
David n'a pas d'armure extérieure. Alors qu'en réalité, toute son armure est intérieure. Et c'est celle-là qui compte réellement. David, il a le bouclier de la foi. Il a l'armure de la justice. Il a la parole de Dieu pour épée. Il a le casque du salut. Il a la ceinture de la vérité. Oui, mes amis, David était armé. Et bien armé. Il avait revêtu l'armure dont parle Paul aux Éphésiens. Et vous, est-ce que vous la portez cette armure ? Jour après jour. En tout cas, c'est pas mon cas. C'est normal après qu'on n'arrive pas à combattre les géants, si on ne porte pas l'armure qui nous protège, qui nous permettrait de vaincre. incroyable ce que fait David ici, mes amis. Il a tout compris. Alors il vient, il ramasse 5 pierres. Pourquoi 5? C'est une question que je me suis posée, tiens. Pourquoi 5? Pourquoi pas juste une? Est-ce qu'il n'avait pas assez confiance en Dieu? Certains exégètes, pensent que c'est parce que Goliath avait 4 frères. C'est ce que dit la parole. 4 autres géants. Peut-être que David, simplement, il préparait des pierres au cas où les frères se ramèneraient. J'aime bien cette interprétation, je la trouve cool. J'aime bien ce chiffre 5 aussi. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai juste mentionnée tout à l'heure? Cet enfant qui apporte aux disciples 5 pains et 2 poissons. David, il a 5 pierres dans sa poche. Ce gamin qui apporte 5 pains et 2 poissons, lui aussi, il a tout compris. Il vient simplement et il donne ce qu'il a. Jésus dit aux disciples dans ce passage de la multiplication des pains, « Ok, il y a un peuple là, il faut leur donner à manger. » Là, le disciple, très rationnel, « Oui, on va les renvoyer à la campagne, ils auront acheté à manger. » Et là, Jésus leur dit, « Non, donnez-leur vous-même à manger. » Ah, mais on n'a rien du tout. C'est seulement un gamin qui vient, en toute simplicité, qui donne ce qu'il a. Et avec ses 5 pains et ses 2 poissons, Dieu fait un des miracles les plus incroyables du Nouveau Testament. C'est à ça que Dieu vous appelle. Hein. Dieu vous appelle à donner à manger. C'est bien beau de dire, et il faut le faire, hein, de dire la situation est horrible. Il y a plein de défis, plein de challenges. Mais Dieu ne vous appelle pas à vous limiter à ça. Quand les prières ont été faites, quand les plaintes et les tristesses et les larmes ont coulé, il est temps d'agir. Et Dieu vous appelle à agir. Dieu veut qu'on agisse là où on est, avec les dons qu'il nous a donnés. Et peu importe que vous soyez un Saül ou un David, c'est pas l'important. Ce qui importe, c'est que vous apportiez ce que vous avez et que vous le donniez en toute simplicité. Et Dieu le multipliera. Le combat. Goliath, il fait la même erreur que David. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un jeune garçon, de belle apparence, et roux. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on précise que David est roux? Est-ce que c'est si important que ça? J'ai réfléchi un petit peu et j'ai essayé de faire des recherches. Bon, il n'y a pas trop de recherches sur les roux. Mais il faut savoir que, en général, les roux, à travers les siècles, ont souvent été raillés, voire persécutés. Si on prend les Romains, par exemple, c'était associé à la bouffonnerie. Si on prend plus proche des Israélites, les Égyptiens, c'était associé au mal. Leur dieu de la mort, Seth, d'ailleurs, est roux. Et les Philistins, alors, ils en pensaient quoi? On ne sait pas trop. Hein. Mais je pense que Goliath, il a vu un gamin roux et il s'est dit... C'est un bouffon, quoi. C'est un paria. Imaginez-vous un peu la scène. Hein. Un petit berger qui arrive avec son bâton, son lance-pierre. C'est un gamin. Il est roux. J'ai rien contre les roux. Hein. Ah, quelle humiliation pour Goliath. En plus, il est obligé de se battre avec lui. Hein. Ça fait 40 jours qu'il leur demande, qu'il nargue les Israélites. Il est obligé de se battre. Et Goliath, il est sûrement habitué au combat épique, vous savez, comme dans l'Odyssée ou l'Iliade. Hector contre Achille. Mais on vient avec lui, on vient en face de lui, David vient en face de lui avec un bâton. Il a rien compris, Goliath, encore une fois. David, il vient pas simplement avec un bâton, mais il vient avec le nom de l'Éternel, c'est ce qui est marqué. Et c'est ce nom de l'Éternel qui va le délivrer. Si on regarde juste les faits, rien, mais alors rien, n'est du côté de David. Il est seul, avec son bâton et son lance-pierre. Goliath est imposant, c'est le cas de le dire, avec toutes ses armes. Et pourtant, Dieu va faire un miracle. Avec un petit caillou, le géant va être terrassé. Et qu'est-ce qui se passe après? Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alors les hommes d'Israël et de Juda se dressèrent, lancèrent une clameur et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Qu'est-ce qui se passe là? Quelque chose change.
Les Israélites qui étaient patients redeviennent agents. Et à cause de quoi? Parce que l'obstacle a été terrassé. C'est comme un peu si le mirage se dissipait, vous savez. Je sais pas si vous connaissez Cervantes, Don Quichotte de Cervantes, mais Don Quichotte, c'est un petit personnage qui est un peu fou et qui prend des moulins pour des géants. Bon, c'est amusant, hein, mais c'est vraiment dommage d'avoir peur d'un moulin, non? Eh bien, c'est probablement ce qu'on prenne les Israélites à ce moment-là. 40 jours que Goliath nous casse les pieds, qu'on trempe comme des feuilles, et un gosse, un coup au bataillon, le tue avec un caillou. C'est ce qui se passe souvent, hein. Et on rigole bien quand on se rend compte de ce qui s'est fait, comment on s'est fait piéger. Vous avez déjà entendu parler de l'effet domino? Pour ceux qui sont un peu anciens parmi nous, vous pouvez penser à la dislocation du bloc de l'Est en URSS. Il a suffi de quelques événements en Pologne, et hop là, tout s'est effondré, on n'a rien de temps. Plus récemment, au printemps arabe, tous les pays rentrent en révolution, les uns après les autres. Voilà ce que fait David, mes amis. Il donne la pichenette. Il vous donne espoir. Et là, j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que c'est extrêmement important. Mes amis, si vous n'êtes pas nés de nouveau, si vous êtes face à la mort, c'est sans espoir. Vous ne pouvez rien faire tout seul. Autant vous le dire. Mais ce qui est assez incroyable, mes amis, c'est que le fils de David était attendu. Et il a vaincu la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Par Jésus-Christ, nous avons l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, la mort a perdu sa force. Et nous, en tant que communauté, en tant que chrétien, en tant qu'individu, petit Christ, comment est-ce qu'on doit réagir? Mes amis, bien souvent, il suffit d'une personne qui se lève, d'un homme, d'une femme, qui dise non, qui se lance dans tel ou tel projet pour ouvrir la voie. Serez-vous cet homme, cette femme, capable d'ouvrir la voie dans un projet qui honore Dieu? Si vous attendez, comme les Israélites, que tout tombe tout cru, je vais vous prévenir que vous allez attendre encore longtemps. Dieu ne veut pas des fainéants, encore moins les apathiques. Dieu trouve ça insupportable, les chrétiens qui disent « Ah, cette situation est dramatique !» et puis qui rentrent chez eux, se poser dans leur fauteuil pour regarder le feuilleton du dimanche après-midi. Mes amis, j'aimerais vous laisser encore une fois avec une phrase de ce philosophe pessimiste et nihiliste Cioran. Voilà ce qu'il dit. Je me dérangerai à la rigueur pour l'apocalypse, mais pour une révolution, collaborer à une fin ou à une genèse, à une calamité ultime ou initiale, oui, mais non à un changement vers un mieux ou vers un pire quelconque. Et vous, est-ce que vous oserez vous déranger? Est-ce que vous oserez collaborer au royaume de Dieu? Si tu n'as pas placé encore ta foi en Christ, il n'est pas trop tard. Ne te fais pas d'illusions. Hein. Le géant est trop dur à vaincre par tes propres forces. Ta seule solution, c'est de laisser Jésus s'en charger. Lui, par amour pour toi, a décidé de mourir sur une croix. Et le Père l'a ressuscité 3 jours plus tard, ouvrant le chemin et incarnant l'espérance. Et toi qui as accepté Jésus-Christ, qui t'appelle chrétien, qui te laisse appeler chrétien, petit Christ. Dieu t'appelle ce matin à être un ouvrier pour sa moisson, à être un soldat de paix. Es-tu prêt à combattre le bon combat? Es-tu prêt à relever le défi? Es-tu prêt à laisser Christ agir à travers toi? Prions. Mon Seigneur et mon Dieu, pardon parce que on n'a rien compris. Pardon parce que on s'appuie sur nos propres compétences et on ne s'appuie pas sur toi. Pardon parce que on n'a rien compris. Pardon parce qu'on n'agit pas et qu'on se dit, c'est pas à moi de le faire, je suis pas compétent pour ça. Pardon Seigneur parce qu'on n'a rien compris. Pardon parce que c'est ta foi qui nous qualifie. C'est la foi qu'on place dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pas une force ou une intelligence, c'est une obéissance qui nous qualifie, Père. Seigneur, je te prie pour Otini. Je prie pour Lorraine. Je te prie pour ces hommes et ces femmes qui sont ici. Seigneur, tu les appelles à être à ta suite, Père. Tu les appelles à être avec toi. Et suscite en eux, Père, des projets qui t'honorent. Qui s'avancent vers toi simplement avec ce qu'ils ont à t'offrir. 5 pains, 2 poissons. Et que tu multiplies tout ça pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.